15h40. Hey, j'espère que vous filez déjà en mode week-end. Mais oubliez pas d'aller voter sur l'Instagram. Je sais que Instagram a quelques petits ratés depuis le début de la journée. On dirait la première séance d'essai libre au Grand Prix de Montréal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui marche. on en parlera avec Pierre Houde, ben oui. Quoi, dans une dizaine de minutes à peu près. Ouais. Mais je veux vous inviter à aller voter dans notre combat des casse-croûtes parce que les deux adversaires d'aujourd'hui sont deux véritables institutions.
Je vais aller voir c'est quoi.
Tu l'as pas vu encore?
Non.
C'est le temps d'aller voir là.
C'est le temps d'aller voter, hein?
C'est le tournoi des casse-croûtes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Votez pour votre casse-croûte favori. Et à la fin de ce tournoi, qui va se terminer le 22 juin avec l'annonce du gagnant en ondes, eh bien, il y aura, parmi tous ceux qui ont participé et tous ceux qui ont voté, une opportunité d'aller manger dans le casse-croûte gagnant en compagnie de la gang de Rage Against le matin, qui a eu l'initiative de ce tournoi des casse-croûtes, donc en cours sur notre Instagram. Véro, as-tu les deux qui s'affrontent aujourd'hui?
Oui, je suis en train de te sortir ça à l'instant. Alors aujourd'hui, ce qu'on avait dans le casse-croûte, c'était Resto Richard et le Flashbourg. C'est effectivement deux institutions.
Ben oui.
J'avoue que c'était assez serré au moment où on se parle.
Ben, c'était très serré ce midi, puis moi j'ai l'impression que ça va être vraiment là une décision de dernière minute. Ça risque d'être le combat le plus serré en première ronde. Il y en a même qui vont te dire, on va parler en termes de hockey, c'est peut-être la finale avant la finale pour plusieurs amateurs de casse-croûte. 15h41. Est-ce qu'on se branche?
Ben oui, il est là.
OK.
Voyons,
okay.
Regarde, tu fais des bonjours. Ouais, ben, il est là avec sa belle chemise.
Je voulais juste être sûr. Tabarnouche. Pour moi,
Es-tu beau?
On s'en va le rejoindre dans sa cabane au Grand Prix du Canada. Ça fait une semaine que je rêvais de dire ça en onde. On s'en va rejoindre l'ami Pierre Houde avec une chemise. Mon Dieu Seigneur, est-ce que ta fille t'a amené magasiner, Pierre?
Non, mais je ne sais pas si Michel serait d'accord. Mais,
je pense que oui, ça te fait très bien.
T'es dans ses teintes, t'es dans son style, je trouve, aujourd'hui.
Ouais, ben là, c'est notre style décontracté. alors, j'ai un veston gris très pâle,
mm-hmm.
Chemise blanche et noire imprimée avec du gris.
C'est de toute beauté.
Et puis, jeans noirs. Et puis voilà, c'est le carnet mode, le volet mode.
Ouais.
Je pourrais pas.
De notre conversation aujourd'hui.
C'est un triste constat de ma part parce que je pourrais pas bien paraître comme toi à ton âge. Je parais pas bien comme toi à mon âge.
Tout est relatif.
Fatalité, hein?
Tout est relatif. Alors, merci du compliment, mais tu sais, je l'ai toujours en anglais, la maxime ou le dicton: Beauty is in the eyes of the beholder.
Oh mon Dieu!
Est-ce qu'il y a déjà eu une traduction, Véro?
Oui, il y a une traduction pour ça.
Ouais.
Bon, la beauté dans l'œil et dans les yeux de celui qui regarde, voilà.
De celui qui regarde, bon, OK, je vais utiliser celle-là. Alors, tu vois ce que je veux dire, Denis. merci de m'accueillir plus tôt parce que tout l'horaire est chamboulé.
Ben oui.
Vous êtes dans l'intimité de notre cabine de description. Tu sais, je sais qu'on fait de la radio, pas de la télé, mais Patrick Carpentier est là.
Ben oui. Bonjour, M. Carpentier. Long time no see.
Alors, les gens de Québec te saluent. Denis Gravel, Véro Bergeron. Bertrand est en train d'écouter la conférence de presse des directeurs d'écurie, en fait, des directeurs techniques d'écurie. Et puis, c'est ça. Nous, on vit le direct, l'incroyable situation qu'on a vécu ensemble ici. Au circuit Gilles Villeneuve.
Il va falloir que tu nous expliques parce que nous, on le suit de loin. Puis depuis tantôt, on vous regarde du côté de RDS. On a placé notre télé dans le studio à cet endroit-là. Puis là, on a vu les histoires de drapeaux rouges. On semble dire, il n'y a pas eu de décès libre, c'est ça?
En fait, la séance a commencé et quelques minutes après le début de la séance, le premier incident, c'est Pierre Gasly qui a été victime d'un sérieux problème technique. Les rapports de boîte ne passaient plus. Donc, Gasly s'est rangé en bordure de piste entre les virages 2 et 3. Entre le 2 et le 3. Et puis, il essayait de relancer la voiture parce qu'on peut réinitialiser les systèmes parfois à distance. Et souvent, la voiture peut repartir. Et là, on a tenté de le faire et ça n'a pas fonctionné. Quand on a vu que ça n'avait pas fonctionné, la voiture était un endroit qui pouvait être dangereux. Donc là, on a dit drapeau rouge. Les commissaires de piste sont intervenus. Il y avait une zone de dégagement qui était juste à côté. Tout le monde a bien fait son travail, parfaitement. Et nous, on s'attendait, parce qu'il n'y avait pas de débris, On s'attendait à ce que la séance soit relancée aussitôt. Et la séance n'a pas été relancée. Et là, plus les minutes s'écoulaient, plus le doute s'installait chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Et on a fini par avoir l'information que c'est un problème de synchronisation des caméras de surveillance qui a empêché la direction de course de relancer les choses. Qu'est-ce qu'on fait avec les caméras de surveillance? Bien sûr, il y a des caméras de télévision qui captent l'ensemble des voitures en piste, donc on peut s'y rabattre si jamais on a une enquête à faire ou si jamais on a des pénalités imposées ou des sanctions et ainsi de suite. Mais on doit aussi avoir des systèmes de caméras supplémentaires qui vont couvrir les endroits où les caméras de télévision que les caméras de télévision ne couvrent pas.
Ouais.
Rappelez-vous l'accident de Joe Guanyu à Silverstone quand il a fait une sortie de piste puis la voiture s'est déplacée sur l'arceau de sécurité là, qui s'est détaché. La voiture a fait plusieurs tonneaux par-dessus le muret de sécurité. Et on ne voyait plus la voiture de l'autre côté. On se demandait comment était le pilote.
Ouais.
Donc, ça vous montre que les caméras de télévision ne peuvent pas tout scruter à la loupe ce qu'il y a sur la piste. Or, ces caméras de surveillance font partie du cahier de charge du promoteur et de l'organisateur. Et tu dois t'assurer que ces caméras fonctionnent tout le temps, parfaitement et en synchronisation. Et le bug est venu de ce côté-là. Maintenant, je n'ai pas plus de détails. Est-ce que c'est physique? Donc, est-ce qu'il y a eu une rupture d'un câble ou est-ce que c'est électronique, c'est-à-dire un bug de logiciel qui est venu empêcher le système de fonctionner correctement? C'est pourquoi la FIA a décidé de laisser écouler le chrono. Et à un moment, on a dit, bon, parce que ce n'est pas la faute d'une écurie, parce que ce n'est pas lié à une réalité sportive, pour ne pas pénaliser 100% les écuries qui ont besoin de ce temps, et particulièrement à Montréal, on a dit on vous rajoute une demi-heure à la deuxième séance qui va commencer à 16h30 au lieu de 17h.
Donc, okay. Le problème des caméras est réglé là, au moment où on se parle.
Non, je ne peux pas te dire ça, Véro.
OK.
Mais les gens qui vont...
Mais ouais. Ta question, elle est parfaite, mais je ne peux pas t'affirmer au moment où je te parle que le problème est réglé.
Okay.
Mais je ne peux pas te dire que le problème existe encore. On ne le sait pas.
C'est bon.
Véro avait la question technique. Moi, j'ai la question people. Le monde qui ont payé puis qui sont sur le site aujourd'hui, sont-tu garantis, eux autres, de voir des véhicules rouler?
Bien, garantis. Dans la mesure où on a vu ce qui s'est passé tantôt, ça non plus, je ne peux pas te dire ça.
Mm.
Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on va faire tout ce qui est possible, certainement, parce que le soleil ne se couche pas là avant 20h30.
Facile. Ou bon. Même plus tard que ça.
Donc, j'imagine que, bon, ça, c'est la question pratico-pratique du circuit et de Montréal. Maintenant, il y a les télévisions du monde entier aussi qui sont là-dedans. Tu regardes, nous, il faut se retourner puis il faut refaire une programmation. Il faut reprendre nos décisions. Alors, imagine les télés de par le monde qui diffusent. Alors, il y a toute cette notion-là. Donc, la garantie, on vient d'avoir la preuve que non, c'est pas nécessairement garanti. Moi, le dernier bug de cette nature, de mémoire, moi, je remonte à 83, il y avait eu une panne de courant qui avait retardé le départ du Grand Prix en 84. Vous savez, le réseau électrique, la structure électrique, à l'époque, en tout cas, là, c'était celle d'Expo 67, là, celle de Terre des Hommes. Alors, tu t'imagines, et je pense que c'est après le problème de 84, on avait décidé que la principale source d'électricité, ça allait être les génératrices et non pas le réseau électrique câblé. Alors, que veux-tu? Mais de mémoire, moi, c'est le dernier vrai bug sérieux là, à frapper le Grand Prix du Canada. Je parle en termes de réalité technique, pragmatique et non pas la météo, tu vois ce que je veux dire.
Il y a des auditeurs fins finaux qui suggèrent que les caméras de surveillance sont peut-être branchées sur l'ancien émetteur de boulevard 102.1, ce qui pourrait expliquer leur fonctionnement aléatoire. Là. C'est peut-être quelque chose à vérifier de votre côté.
Bon, je vais passer la suggestion à François Dumontier.
Pierre, écoute, on vit un peu par procuration cette semaine la frénésie de gens qui trippent sur la F1 et qui vivent un premier Grand Prix de F1. Notre collègue Thomas Perrin qui me compose de savantes questions pour que j'aie l'air presque intelligent lorsqu'on parle de F1 ensemble. Pierre va vivre son premier Grand Prix à Montréal en fin de semaine. C'est un coup de tête. Il a acheté son billet. Puis
dans
il
l'épingle
va.
En plus de ça.
Exact. Wow. Il est fébrile. Il a le shake depuis deux jours. Notre collègue Vincent Dessureau de Weekend Montréal a été accrédité pour la première fois pour un Grand
Prix
de F1.
Mais je l'ai rencontré hier dans la.
Ah oui?
Ah oui!
Il est venu me serrer la main.
Oh, j'espère!
on parle du même là, qui ben était oui. avec vous à l'autre antenne à l'époque.
Oui, puis qui est rendu du côté de Weekend Montréal le matin.
Exact.
Bon, alors, ben oui, il m'a dit ça. Et puis il m'a dit, mon Dieu, que ce serait le fun de t'avoir avec moi et à toi avec Denis et Véro. Ben, je dis, écoute, parle aux autorités compétentes.
Ça, c'est moi, ça?
Dans votre cas, c'est toi, puis dans mon cas, c'est Sylvain.
C'est Sylvain, on se parle déjà, c'est pas pire.
Mais Pierre, la question que je voulais te poser, parce que tu sais, je vois une fébrilité d'enfant de 8 ans quand on a parlé à Dess un peu plus tôt cette semaine, puis c'est la même chose. Thomas arpente les corridors en attendant de s'en aller. Il n'est plus ici, là. Il est déjà rendu là-bas mentalement. C'est pas ton premier rodéo, c'est pas ton premier Grand Prix, mais de retourner sur place dans un Grand Prix où tu as déjà remis les clés au grand chef de la F1, ça te fait-tu encore? Tu sais, je sais que c'est un travail, je sais que c'est une job, je sais que tu es habitué au paddock, à l'environnement et ainsi de suite, mais t'as-tu encore le chill, t'as-tu encore le frisson pendant le Grand Prix de Montréal?
Alors, on m'a posé beaucoup la question depuis quelques jours, Denis. La réponse est oui. Tu sais, dans les dernières années, le mercredi soir, c'est parce qu'on est physiquement ici toute la journée le jeudi. On a beaucoup d'entrevues après enregistrées. On fait tous les tests de micro, de casque d'écoute, de caméra. On est vraiment une grosse équipe là, à s'installer. Et puis, les dernières années, je me dis tout le temps, bon, est-ce que ça me tente? Est-ce que j'ai encore la flamme? Est-ce que la bûche est encore dans le foyer? Et puis, je me suis levé jeudi matin. Puis, tu t'en viens, tu dis, bon, ben t'as hâte de voir s'il va y avoir des petits... c'est du sable dans l'engrenage. Ça va être difficile d'avoir accès au circuit. Mm-hmm. Puis finalement, tu réussis à atteindre ton stationnement. Tu sors de ta voiture, tu sors ta valise. Puis moi, je me garde toujours la marche tout le long de la route du bassin. Ça fait à peu près 1,5 km pour aller de mon stationnement vers notre tour de contrôle, là où on est situé, dans la grande tour de contrôle maintenant. Et puis... ça prend en général une demi-seconde pour me dire « Mon Dieu, j'aime encore ça!
» Puis de faire la run à pied, ça doit remettre dans le bain, ça doit être un bon feeling en partant. Je trouve que c'est une bonne habitude à garder. Là.
C'est une bonne habitude à garder parce que ça te permet de revoir l'infrastructure. Ouais. Moi, je connais l'île comme le fond de ma poche, mais je l'ai connue dans un aménagement différent. Parce qu'à l'époque, on avait une minuscule tour de contrôle. On avait une ligne de puits sans garage.
Ah, c'était en plein air? Ah oui!
Absolument, c'était en plein air, c'était à air ouvert. Et parce qu'il n'y avait pas de garage, il fallait remorquer les F1 après chaque séance. Il fallait les remorquer dans les entrepôts du bassin olympique, là où il y a les embarcations. Et puis, il fallait donc tout aménager, mais dans un contexte beaucoup plus... petit, plus modeste qu'aujourd'hui. Donc, ça me rappelle des souvenirs. Puis en même temps, ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai un lien affectif avec le canoë-kayak puis l'aviron. Ça a été mon premier sport olympique que j'ai couvert en 84 à Los Angeles, à la télé, on s'entend. Mm. Fait que tu sais, c'est un gros miroir de ma vie, hein, revenir ici. Le hockey, oui, mais c'est parce que la F1, je l'ai tellement connu et vécu de l'intérieur, dans tous les angles, tous les raccoins. C'est ça, c'est un gros miroir de ma vie qui me fait encore plaisir dans lequel il me fait encore plaisir de me regarder.
Hey, c'est bien dit ça, tabarnouche. Je me prends une petite note on the side.
Oui, hein?
Oui, je vais m'en servir à un moment donné. Ça, c'est sûr et certain. En parlant probablement de quelque chose de plus plate, là, une salle communautaire où j'ai regardé de la lutte ou une place où je suis allé jouer aux arcades, là, je le sais pas.
Hey, parlant de lutte, ils vont être à Québec au mois d'août.
Ben oui, normalement, je parle à Kevin Owens la semaine prochaine. Très, très hâte de lui parler de son premier rôle.
Dans 10 jours.
Ben, okay.
Tu vas le saluer de ma part.
Absolument.
J'y ai pas reparlé à Kevin depuis un bout de temps.
Tu sais qu'il s'est trouvé une petite job d'acteur on the side. On le voit dans la série Bon Matin Chuck qui est disponible sur Crave.
Ben, tu vas m'entendre aussi.
Eh oui, absolument.
Parce que j'ai fait de la description de hockey pour un des épisodes.
En fait, c'est vrai, on t'entend dans un des épisodes.
Oui, absolument.
L'épisode où tout le monde veut regarder le hockey.
Oui, parce que là, oui, c'est ça, il faut regarder le Canadien contre les Bruins.
Exact.
Ah ben c'est ça.
Ah, oui.
Mais je savais pas pour Kevin, puis le producteur me dit, Il m'a dit, hey, on a un ami commun. Je dis, qui? C'est Kevin Owen. et là, il m'a expliqué que c'était. Donc, que c'était une coïncidence comme ça. Et puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une photo ensemble et on a envoyé ça à Kevin.
Ah, c'est alors, drôle, ça.
Très cool.
Oui, mais il est très bon. Il m'a montré des extraits. Il est extraordinaire dans son rôle de policier.
On l'a beaucoup aimé, en tout cas.
Je suis sûr que dans une autre vie, il faisait une grosse police. Je suis pas mal convaincu de ça. Pierre, tu t'attends à quoi en fin de semaine avec les conditions météo? Ici, annonce de la pluie, vraisemblablement à Montréal aussi.
Oui, c'est surtout demain. Je pense que les écuries sont toutes d'accord pour dire que demain, soit la séance libre ou la séance de qualification, ou peut-être les deux, ont de bonnes chances d'être... peut-être pas de se tenir au complet sous la pluie, parce que ce sont des averses et non pas de la pluie continue au menu. Mais c'est quand même 90%. Là, pour dimanche, on parle de ciel couvert, mais on ne parle pas de précipitation au moment où on échange entre nous. Alors, on verra. Mais les écuries, donc, s'attendent à de la pluie demain, soit en essai libre et ou en qualification. Puis écoute, il y en a qui disent qu'ils aimeraient mieux que ce soit en course parce que ça nivelle les choses et puis ça enlève un peu d'avantage à Red Bull. Mais écoute, toutes choses étant égales, la Red Bull a été dominante en Espagne. La Red Bull va être dominante à Montréal, Denis. Il n'y a pas photo, c'est clair. Max Verstappen aussi. Par contre, ce qui est intéressant, puis là, qu'est-ce que tu veux? Il faut regarder ailleurs pour voir ce qui est intéressant. C'est derrière, parce qu'Aston Martin a amené des grosses évolutions ici à Montréal pour tenter de raffiner la voiture dans l'air ambiant. Tu sais, Denis, un avion, une F1, ta voiture, ton vélo, les patineurs, les embarcations d'aviron, tout ce que je dis vit dans l'air ambiant et dans le déplacement dans l'air ambiant. Quand il y a une masse qui se déplace dans l'air ambiant, on appelle ça la masse crée de la traînée. Ce que tu veux faire, c'est que tu veux réduire la traînée au minimum pour avancer mieux et plus vite et avec moins d'énergie. En F1, c'est particulièrement pointu. Le problème de la Aston Martin cette année jusqu'ici, c'était ces problèmes de traînée en vitesse, en ligne droite. Et on a essayé de l'affiner, cette voiture, avec les moyens, pas les moyens du bord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas la refaire, la voiture, tu comprends ce que je veux dire. On essaie de raffiner les artifices aérodynamiques. On a un nouveau fond plat aussi, enfin un nouveau plancher pour la voiture. Et on espère que ça va donner espoir, peut-être d'un podium. Et il y en a plusieurs qui disent que Lance Stroll, enfin, là, est dans un bon état d'esprit. Il a retrouvé toutes ses capacités physiques. Il y a eu un excellent Grand Prix d'Espagne et plusieurs pensent que le moment est bon pour Lance et pour Fernando. Et d'ailleurs, Lawrence, le père de Lance, le principal actionnaire de l'écurie, a dit quelque part, publiquement, je ne serais pas étonné qu'on puisse avoir nos deux pilotes sur le podium. Puis je parlais avec Lewis Hamilton, l'entrevue va être diffusée plus tard en fin de semaine. Il n'est pas hyper confiant. Puis écoute, chez Ferrari, ça va tout croche. Ouais. On n'a aucune évolution chez Ferrari. Bon. Puis Alpine, tantôt Gasly n'a pas fait un demi-tour. Alors, peut-être que les astres sont bien alignés pour Aston Martin et, par conséquent, pour Lance Stroll. Donc, je m'attends à une domination de Max Verstappen. Évidemment, si la météo ne vient pas tout chambouler, domination, bien sûr, de Verstappen et de Red Bull, mais une excellente prestation des Aston Martin.
Hey, je vois que ça bouge un peu autour de toi dans les dernières minutes. Dès que tu sens que tu as du travail sérieux à faire, nous flushes.
On va essayer 5 minutes.
Parfait. Hey, Pierre,
c'est parce qu'on va en onde beaucoup plus tôt que prévu à cause des changements.
Ouais, j'imagine que l'horaire a été bardassé aujourd'hui. Je vois qu'il y a full. Je regarde les images à RDS de l'émission qui est en cours présentement. Il y a de l'air d'avoir du monde pas mal.
C'est une grande fierté à Montréal. Le vendredi de toujours, les gens envahissent le circuit. C'est extraordinaire. C'est un phénomène qui est vraiment propre. Pas propre à Montréal, mais qu'on ne voit pas partout ailleurs. Si tu regardes des Grands Prix, surtout dans des endroits plus traditionnels, des fois, c'est plus difficile d'accès. Tu n'as pas de transport en commun. Les gens attendent le samedi puis le dimanche. Mais ici, historiquement, ça a toujours été extraordinaire. Et Montréal, entre autres qualités, a toujours été salué par les pilotes, par les écuries, par cette passion qu'ils ont dès le vendredi. Parce que je peux dire pour un pilote, c'est bien beau avoir un programme d'essai et un programme très rigide dans les deux séances du vendredi. Quand Quand tu fais ça devant 100 000 personnes, c'est pas mal plus stimulant, Denis, que le faire devant 12 000 personnes.
Ah, puis la chaleur de la foule, on en parle tellement au hockey au Centre Bell, puis j'écoutais une entrevue, on en parlait tantôt de Kevin Owens, qui dit quand on revient à Montréal puis à Québec, la chaleur puis l'énergie qu'on sent ici de la part des spectateurs, oui, oui, c'est différent d'ailleurs, puis c'est de voir que c'est la même chose avec la F1, ben c'est ça, ça, je trouve que ça nous honore, on le sait, là, on est un peuple un peu sanguin, là, puis ça paraît dans le positif dans ces événements-là, là.
Absolument. Puis je suis allé faire ma petite immersion en ville hier soir à 7 heures quand même. J'ai tenu à y aller. Le centre-ville était festif. C'était tellement agréable. C'était une belle soirée hier. La température était agréable. C'était confortable. Alors, écoute, les pilotes ne disent pas ça à travers leur chapeau. Puis ils ne disent pas ça pour bien paraître. C'est un événement qu'ils adorent. Et ils adorent y revenir. Je parlais à Lewis Hamilton hier. Il a eu sa première pole, sa première victoire ici. Il me regardait avec les éclats dans les yeux. Les pilotes gardent un lien affectif très fort, surtout les plus vieux là, avec Montréal.
Pierre, en rafale, je veux t'entendre un petit peu là-dessus. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, bon, il y a une Coupe Stanley qui a été gagnée et je vais garder l'expression en anglais si tu le veux bien, mais le wet dream de Gary Bettman s'est réalisé. les Knights de Vegas ont gagné une Coupe Stanley, puis je regardais les cotes d'écoute, c'est une catastrophe, une baisse de presque 50% par rapport à l'an passé, les pires cotes d'écoute pour une finale de la Coupe Stanley depuis 2007. Oui, on a eu un effet de surprise, mais ça a tué ce qu'on va appeler l'intérêt peut-être des amateurs de hockey, alors que la finale n'a pas nécessairement été méchante, mais on s'est retrouvé avec les équipes qu'on avait, là, veux, veux pas, là.
Oui, puis écoute, les choix ont été audacieux aux États-Unis, hein, d'aller de séparer le groupe de séparer la grosse pièce de tarte, là, avec ESPN 4 sur 7, puis Turner 3 sur 7.
Ouais.
C'était peut-être payant, mais c'était peut-être pas la mauvaise, c'était peut-être pas la bonne avenue aux États-Unis.
Mm-hmm.
Au Canada, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au départ, c'était peut-être pas les équipes les plus courues, c'était pas attendu, mais il reste quand même que la Ligue nationale a choisi de demander une fortune aux équipes d'expansion. Puis pour demander une fortune, il faut que tu donnes beaucoup en retour. On leur a donné des outils pour ne pas végéter comme les Capitals dans le temps, puis les Islanders dans le temps, puis les Canucks dans le temps, puis les Blue Jackets dans le temps. On leur a donné des moyens pour être compétitifs assez rapidement. Mais George McPhee a été brillant. Puis c'est facile de dire qu'il avait les bons outils, mais George McPhee, c'est probablement un des directeurs généraux les plus sous-estimés dans le hockey moderne. Il a fait un travail exceptionnel à Washington. Puis ce qui est cruel pour McPhee, c'est qu'il était parti quand les Caps ont gagné la Coupe Stanley.
Ouais.
Ils ont gagné la Coupe Stanley à cause de lui, Denis, parce qu'il a bâti l'équipe. Puis il a sauvé la place d'Ovechkin à Washington avant de partir. Il a dit, c'est moi qui s'en va, c'est pas lui. Et moi, je vais vous dire, vous le traitez de paresseux, vous le traitez de ci, vous le traitez de ça. C'est l'athlète le plus engagé que j'ai connu dans ma vie. Bon, est-ce qu'il avait 100% raison sur tout? C'est pas grave.
Ouais.
Le geste qu'il a posé,
c'est
extraordinaire. C'était plus qu'honorable. Il a laissé ça derrière lui. Puis en 5 ou 6 ans, il a amené les Golden Knights à la Coupe Stanley. Puis en conclusion, parce que dans le fond, écoute, toi et moi, on a débattu. Est-ce que c'est Bobrovsky? Est-ce que c'est Kachuk? Du côté des Golden Knights, j'avais hâte de connaître le Conn Smythe parce que ça aurait pu être bien des joueurs. Mm-hmm. Donc, ça prouve que cette recette-là, elle va faire des petits. On va regarder, on va se dire, hey, est-ce qu'on a besoin d'un Bobrovsky? Est-ce qu'on a besoin d'un gardien à 10, 11, 12 millions? Est-ce qu'on a besoin d'une ligne bleue toute étoile? Je comprends qu'il y a Pietrangelo, mais en même temps, il nous faut un mélange de talent, de papier sablé, de mobilité, de jeunes, de vétérans. Donc, on a peut-être une nouvelle recette là, qu'on va suivre dans la Ligue nationale.
Hey, le traitement des athlètes, je veux t'entendre là-dessus. Mettons qu'il y a un Grand Prix, bon, le Grand Prix de Montréal en fin de semaine, puis qu'on apprend que Lewis Hamilton, il a mal partout, il a deux épaules séparées, il a le sternum fracturé. Il faut le lever, puis il faut le prendre, puis il faut l'asseoir dans F1 pour qu'il réussisse à faire le Grand Prix. Moi, les déclarations de Kachuk m'ont troublé, profondément troublé. Il disait... On me mettait mes patins, on me lassait mes patins,
il
fallait me lever. Ça me fait réfléchir, moi, sûr, parce que ça, d'habitude, on dit, hey, c'est des guerriers, tu sais, les histoires de Patrice Bergeron avec un poumon perforé.
Oui, mais jouer à tout prix à un moment donné.
Je me questionne, j'ai un dilemme moral par rapport à ça, Pierre.
C'est une discussion, c'est un dilemme qui existe depuis des années. J'ai couvert 12 finales de Coupe Stanley, puis à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qui se passe en arrière des portes,
des salles
de thérapie, on appelait ça la pharmacie, la médecine sportive, appelle ça comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe en arrière pour qu'un athlète soit capable de venir jouer? Pareil, mais souvent, l'athlète va décider de son propre sort. Puis regarde quand Graham Rynban et son adjoint ont été libérés par le Canadien cette semaine. Les joueurs ont dit « ouais, mais… » Puis dans la foulée de ça, on dit « ben c'est parce que le joueur, souvent, il va mentir sur son propre état de santé au thérapeute pour être capable de revêtir l'uniforme et de jouer. » Quelque part, est-ce que ça devrait être entièrement la décision de l'athlète? Au contraire, est-ce que ça devrait être entièrement la décision du personnel médical d'une équipe? Est-ce que ça devrait être la compagnie d'assurance? Est-ce que ça devrait être le médecin? Je ne sais pas, Denis, j'aimerais ça pouvoir te répondre. Mais quelque part, la liberté de l'athlète, son appétit, t'es à quelques matchs de gagner une Coupe Stanley.
Mais
je suis d'accord avec toi. L'ampleur d'une telle blessure, ça nous glace le dos, c'est clair. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux?
Pierre, t'es en direct du Grand Prix de Montréal. On roule-tu ou on roule pas-tu là, dans les prochaines minutes? Je sais que tu retournes en ondes incessamment.
On va espérer que tout va bien. En principe, à 16h30, les F1 sont de retour en piste pour 90 minutes au lieu de 60. Et bien sûr, on est là en direct, nous, pour le tout début, pour capter tout ça et pour vous rapporter tout ça.
On est branchés tout le week-end à RDS avec vous autres. Bon Grand Prix, Pierre. Amuse-toi bien.
Et je vous retrouve en personne
lundi
prochain.
Oh, que j'ai
hâte!
je vais tenter de retrouver ma chemise à carreaux, ma chemise de chasse.
Bien sûr, pour ta cabane au Grand Prix du Canada. Oui.
Ben oui, et pour fêter la Saint-Jean.
Évidemment, on va entonner quelques airs de Paul Piché ensemble. Salut, Pierre!
Heureux d'un printemps.
Qui me chauffe la couenne.
Bye.
Salut. Prix, bye.
Salut Pierre. Hey, Pierre qui nous parle en direct de sa cabine de RDS du côté de la F1. Très gentil encore une fois de le faire, très généreux parce que l'horaire a été bardassé aujourd'hui. Puis il y avait 95% de chances que ça fasse patate, mais finalement il a pris quelques minutes pareil. Puis on a pu jaser d'un paquet de choses. Merci Pierre, super cool.
Tout le temps.
Ouais. Donc, on va surveiller deuxième séance d'essai libre, alors que la première n'a pas fait long feu, c'est le cas de le dire. Des problèmes techniques qui ont fait en sorte que les caméras de surveillance qui couvrent les angles que les caméras télé ne couvrent pas ne fonctionnaient pas.
Alors que c'est essentiel, je ne savais pas que ces caméras-là existaient.
Oui, puis là, on n'est pas en mesure de dire si ça marche ou si ça ne marche pas, mais il doit y avoir du monde nerveux dans les estrades. Tu sais, tu te déplaces pour la journée, tu veux voir de la F1 se promener un peu. Là.
Surtout que c'est la journée accessible. Dimanche, tu vas avoir des gens qui ont les moyens de se payer des billets, mais il y en a plusieurs que eux autres, la journée des essais libres, c'est le moment où ils vont entendre le moteur, c'est le moment où ils vont vivre leur fébrilité, c'est le bout où ils sont capables de se le payer. Puis c'est beaucoup de monde là, dans la vie en général qui ne peuvent se donner que le vendredi de la F1.
T'as raison, puis évidemment, on va surveiller ça toute la fin de semaine. Du côté de nos amis de RDS, il y a de la circule de notre côté à Québec.
Je te dirais que quand même, pour un vendredi après-midi, ça va bien. Il est quand même 4h08, puis ça roule comme Pierre va pouvoir dire en fin de semaine.
Et on roule-tu?
Mais sur Capitale, en direction S, c'est encore très au ralenti entre Masson, puis je te dirais passer un peu Robert Bourassa, mais c'est vraiment le secteur où c'est le plus crunchy. Un peu lent à l'approche des ponts, mais ça se résorbe très rapidement. Vous êtes sur le boulevard Laurier quand vous arrivez à la hauteur des centres commerciaux, un peu plus lent pour accéder justement au pont et ça se règle super vite. Sur la rive sud, ça a l'air de bien circuler. Il manque quelque chose dans la circulation. N'hésitez pas sur le texto 418-971-1021.
C'est les héros musicaux de la semaine à Québec parce qu'ils ont lancé dans notre cours leur tournée nord-américaine. On a un auditeur qui a fait un franc succès sur scène en compagnie de la formation canadienne Nickelback. Ça a fait jaser à grandeur de la province. La nouvelle tune de Nickelback s'appelle Those Days. Elle est sur le radar de Boulevard 102.1.
La circulation présentée par Roulotte Turmel.